RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
le Super Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Gilbert Brébois.
Michel Chenu ne parlait pas des droits télé de la semaine dernière, mais c'était des droits télé il y a quelques années. Mais c'est toujours aussi bon. Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo, Jérôme Latal et Cahiers du Foot. On va finir le débat fumigène avec Abdel avant de parler justement des Cahiers du Foot. Abdel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Salut Abdel.
Bonsoir Latal, salut.
Est-ce que tu as déjà craqué un fumigène dans un stade?
Non, j'ai jamais craqué de fumigène, mais j'étais tout près, quoi. J'étais abonné à Hauteuil, donc plusieurs années. Et donc ce que j'expliquais au standard, c'est qu'en fait moi mon premier match de foot que j'ai été voir au stade, c'était un PSG Auxerre, je crois que c'était la saison 93-94, on avait gagné 4-0 et j'avais jamais été dans un stade de foot et j'ai vraiment kiffé le spectacle qu'il y avait en tribune, alors que je savais pas à quoi ça ressemblait un stade de foot. Donc il y avait les fumigènes, il y avait les chants, il y avait les mouvements, et pour moi ça fait entièrement partie du spectacle, donc soit les fumigènes comme les chants, comme les tifos, tout ça c'est ça fait partie entièrement du spectacle. Après pour les fumigènes, c'est vrai que il y a pas mal d'excès, c'est vrai, on peut pas nier non plus qu'il y a des excès. Donc je pense qu'il faudrait encadrer un peu le truc, et qu'il y ait surtout, encadrer le truc, il faudrait qu'il y ait une discussion vraiment, carrée autour d'une table entre les responsables, les dirigeants des clubs.
C'est ce que disait Jérôme. En fait, la discussion, elle existe, mais sauf que la discussion, elle sort à un mur. C'est-à-dire que la Ligue et la Fédé disent « no way », quoi.
Ouais, mais après, c'est comme je vous entendais, vous parliez de nouveaux engins pyrotechniques, donc qui visiblement seraient beaucoup moins dangereux que ceux qu'on a actuellement, sachant que ceux qu'on a, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un être blessé par un fumigène ou se brûler ou quoi que ce soit, c'est peut-être déjà arrivé.
C'est plutôt les pétards et les bombes agricoles qui posent des problèmes de sécurité. Il y a beaucoup de groupes ultra qui dénoncent leur utilisation, d'ailleurs.
C'est vrai, mais ça c'est encore autre chose. Après, de mémoire, il y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage aussi dans une tribune marseillaise. Et il y avait eu un craquage de fumigène, et à un moment le capot là d'un groupe ultra, il a reçu donc on lui a dit de calmer ses gars parce que sinon ils allaient prendre un huis clos. Et donc il a calmé les gars et ça s'est calmé derrière. Donc je pense que si les ultras on leur laisse gérer le truc, bien sûr, que ce soit encadré, je pense qu'il y aurait pas de dérive, il y aurait pas de fumigène qui finirait sur les pelouses, et puis on continuerait à avoir un spectacle sur la pelouse et puis en tribune, quoi.
Bon, bah écoute Abdel, tu milites pour l'utilisation des fumigènes. Bon après voilà, qu'un leader ultra tienne la totalité de sa tribune, rien n'est jamais moins sûr. Donc
il s'agit de responsabiliser justement. Oui. Donc on n'y arrivera pas aujourd'hui. Aujourd'hui les ultras sont entre guillemets poussés à la provocation, et on l'a vu cette saison. Plus il y a eu de sanctions, plus il y a eu de craquage de fumigènes. Donc
oui, parce que c'est la réponse automatique, évidemment. Les cahiers du foot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cahiers du foot, il y a le site internet qui existe toujours
depuis 20 ans,
évidemment. Et donc il y a à nouveau une sortie papier. Alors tiens, je vais le montrer. Tiens, sur BFM Sport là, pam, il est magnifique avec une photo de Miss, Miss Bangalore peut-être.
Non, on est à Manaus au Brésil.
Ah, très bien. Ouais. Donc Miss Manaus. alors racontez, parce que. C'est vrai que, comme Daniel le disait, il y a une sorte de cousinage un peu entre l'after et les cahiers du foot. C'est-à-dire, vous êtes un peu comme nous, on va dire un peu impertinent, quoi. Voilà, vous cultivez votre différence.
C'était la nouvelle vague au milieu des années 2000, quoi. C'est ça. Et on est un peu plus de gauche que vous en général, mais à part ça
dépend qui dans l'émission.
Ouais, d'accord.
Et puis de toute façon, toi, tu seras toujours plus de gauche que n'importe qui.
Plusieurs tendances sont représentées.
Tout est relatif.
Ah oui, voilà.
Oui, tu veux dire par rapport à qui
le positionnement, oui, tu vois. Là.
Comme s'il faut être de gauche pour être cahier du foot.
Ah, non,
vous n'acceptez pas les libéraux.
Non, on a toujours été assez militants. On le voit quand on parle des
Nous ici, dans la vidéo, tout est ouvert.
Ben voilà, non, mais c'est pour ça qu'on est ravis de venir. Tout
nous, tu vois.
Donc oui, non, il y a un petit peu moins ce côté militant dans la revue. On parle à peine de l'arbitrage vidéo, par exemple. Et l'idée, c'était de renouer avec le papier. Et pour renouer avec le papier, aujourd'hui, il y a ce format-là de revue. Là, il y a 184 pages. C'est un... on espère un bel objet. On a beaucoup travaillé le graphisme. Alors il y a évidemment des sujets en profondeur. Il y a des longs entretiens. J'en parlais à l'instant là hors antenne. On a réuni trois arbitres, un arbitre de Ligue 1, un arbitre de Top 14 et une arbitre féminine.
Ils ont tous dit qu'ils détestaient leur métier.
Il y a un grand entretien avec Rai. Il y a un grand dossier sur la beauté. Alors vous voyez, quand on parle de la beauté, ça va, c'est pas trop politique. Il y a des documents. Il y a un document, quelque chose d'assez exceptionnel.
La beauté, ça renvoie souvent au débat Cristiano-Messi.
Ben, on en parle, effectivement. Ouais. On parle des différents genres de beauté de joueurs, justement.
Ah oui. Là, c'est deux différents genres de beauté. Ouais.
Il faudra m'expliquer de quelle beauté se rapproche Cristiano. Cristiano, vous me parlez d'efficacité, de performance sportive, de beauté et d'esthétisme du football, là, je suis désolé, je comprends pas.
Il est stylé, Cristiano.
Ouais, je comprends pas.
Quelle est la beauté de Messi?
C'est la beauté du geste.
Le geste avec le ballon.
Oui, alors on peut pas parler d'élégance.
Mais si, faut déterminer de quoi on parle.
Mais si, s'inscrit dans une tradition du jeu avec le ballon, qui est celle de, je sais pas, des plus grands, de Maradona, de Pelé, de Platini, de Cruyff.
On peut pas parler d'élégance. Cristiano Ronaldo.
Mais l'élégance et le style, ça compte énormément dans ce que renvoie le joueur. Et souvent, les joueurs auxquels tu t'identifies à certains joueurs aussi parce qu'ils ont un style que tu, je sais pas, peut-être qui te plaît ou que tu te reconnais.
Cristiano, il peut t'en renvoyer à tout ce que tu veux. C'est du sportif pur. Après que lui fasse attention à son image, c'est autre chose, mais c'est du sportif pur. Mais élégance du geste,
élégance du geste, je suis d'accord. Quand tu fais une bicyclette à 3,50 de haut, si c'est pas de la beauté.
Justement, il y a un des thèmes qu'on a abordé, c'est que souvent la beauté est l'ennemi de l'efficacité. Donc Cristiano Ronaldo, on peut pas lui reprocher d'être inefficace. Mais il y a beaucoup de joueurs élégants qui sont plein d'Argentins, Riquelme, Neymar, Pastore, etc.
Redondo,
qui sont des très bons joueurs qu'on adore regarder jouer, mais qui nous frustrent toujours parce qu'ils ont un petit problème de.
Thierry Henry était très beau joueur.
Ah oui, il y en a qui sont efficaces.
Bien sûr.
Par exemple,
tu peux être les deux. Non, mais tu vois, il y a un rapport au ballon, pour moi, dans l'esthétisme du football, que Cristiano Ronaldo n'a pas. Ses passements de jambes, ils sont grossiers.
Non, son élégance, elle est ailleurs, lui.
Moi, je remets rien en question. Pour moi, c'est un monstre.
T'as une élégance du geste, pour moi, d'un côté, c'est Messi.
Ouais, bien sûr.
Et puis, de l'autre côté, c'est presque plus de la prestance.
Dans le dribble et tout, Cristiano, c'est un dribble en force.
En puissance, ouais. Alors après, c'est effectivement, si on aime ce que ça dégage, ouais, c'est élégant aussi.
Tiens, alors ça me fait penser. Donc là, les cahiers du foot, évidemment, avec ces tendances aussi politiques. On a beaucoup parlé parce que comme c'était l'anniversaire de mai 68, là, tout le monde, il y a eu plein de documentaires et tout. Et on a beaucoup parlé dans le monde du foot de cette fameuse revue de l'époque qui s'appelait Miroir du football. Ouais. Qui était un truc hyper militant, donc de gauche.
Même qui faisait partie d'un groupe de presse de gauche, affilié au Parti communiste.
Et donc, eux, ils développaient des théories aussi sur le jeu, qui, en gros, étaient cousines de leurs idées politiques. Ils disaient, nous, étant communistes, on vous explique comment il faut jouer à la mode communiste.
On peut voir plein de paradoxes.
Vous n'avez pas voulu aller jusque-là.
Il y avait Gustav Sebes, l'entraîneur de la Hongrie mythique, qui parlait de football socialiste. À Miroir du football, il défendait la beauté du jeu brésilien, avec de l'inspiration, contre le Catenaccio, qui, en résumé, était complètement réactionnaire et était insupportable.
Ce qui était absolument fou, parce que c'était un football de pauvres, justement.
Alors là-dessus,
c'est l'un des grands paradoxes. Ouais. C'était le football des pauvres. Les Italiens disaient parce que nous, on n'a pas de moyens.
Les pauvres sont pas tous de gauche.
Alors on a aussi dit que le dribble, c'était aussi l'arme des pauvres. Et c'était ce qui s'est dit au Brésil aussi.
C'est ce qu'ils disaient parce qu'en fait, c'était le grand costaud qui basait plus sur la force, la puissance. C'était les nobles anglais.
Que le dribble, c'était l'esquive. C'est le football des
vivants. Christian Gourcuff, il explique qu'il s'est inspiré, que lui, c'est sa source d'inspiration à l'époque, ce journal. Quand lui a démarré, qui était jeune.
Oui, bien sûr.
Et vous auriez pu prendre ce virage?
Le virage de défendre un style de jeu par rapport à un autre.
Non, mais même d'avoir un positionnement, en disant voilà, nous on défend un certain type d'idées et on va faire un journal qui correspond à ça.
Exactement, ça transpire. Même si la beauté, c'est plutôt un thème œcuménique, on défend toujours une idée du football en faisant un journal, je pense, un journal de ce type-là. Mais d'ailleurs, à propos d'idées du football et de l'entraîneur, on a reproduit quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On est très heureux de l'avoir reproduit. On a retrouvé les carnets d'Albert Batteux. Alors lui qui était
partisan du... Ah, il paraît que c'est extraordinaire, ça.
Il était partisan du beau jeu, dans les différentes écoles du jeu à la française, pour citer Thibault Leplat, qui a écrit un très beau livre là-dessus. Et il tenait au quotidien, et, alors de manière très appliquée, hein, c'est une jolie écriture calligraphiée, il tenait un journal des équipes qu'il a entraînées à Reims et à Saint-Etienne. Donc il a remporté un paquet de titres avec ces deux équipes. Et puis il raconte au quotidien, alors ça peut être des choses très très anecdotiques, il note les scores de tennis-ballon par exemple. Et puis il note aussi les appréciations sur les joueurs, les grands joueurs de l'époque, Salif Keita, Mekloufi, etc. Et il raconte un petit peu la vie du groupe, il fait les bilans des matchs de Coupe d'Europe contre le Celtic Glasgow par exemple, contre lesquels ils avaient perdu. Bref, on passe un petit peu derrière dans l'intimité ou dans la vision d'un grand entraîneur comme ça. Donc on a reproduit une vingtaine de pages de ces carnets, on les a présentés en racontant un petit peu ce que c'était. Il y a ce genre de choses assez singulières. On a rencontré Ray et Ronaldo, des entretiens assez classiques, mais on a aussi développé pas mal de choses originales. Il y a une BD, il y a une fiction, il y a plein de choses comme ça à découvrir.
Ronaldo, je me suis toujours battu avec mon corps.
Oui, ce qui résume, enfin c'est une assez belle phrase, je trouve.
Ah ouais,
mais
oui.
La photo est pas mal aussi. Elle dit un petit peu ce qu'il est devenu et raconte justement.
C'est quoi sa maladie exactement, tu le sais,
c'est un problème de thyroïde. Non,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
D'accord.
Et raconte tout son rapport extrêmement difficile avec son corps, qu'il avait amené très vite, très haut, avec des performances exceptionnelles. On avait même mis en cause un petit peu les méthodes de préparation aux Pays-Bas, hein, quand il jouait là-bas, jusqu'à la rupture multiple de son genou, quoi, qu'il a amené à changer son jeu. Il raconte un petit peu ça, c'est assez intéressant.
Alors, les cahiers du foot, c'est aussi historiquement le ballon de plomb.
Ouais, qu'on a arrêté.
Le ballon de plomb peut-il renaître, Jérôme?
Il faudrait vraiment qu'on ait un candidat
c'est pas les candidats qui vont manquer.
Mais c'est quoi pour vous le ballon de plomb? Parce que c'est le fruit de pas mal de malentendus.
Ah non, mais moi je pense que pourquoi vous aviez opté comme choix et nous on le relayait.
On était
d'accord, ça doit pas être un mauvais. Ça doit être un mec qui avait quand même un potentiel dont on attendait beaucoup plus dans l'année et qui est passé complètement au travers. C'est ça.
Il y a aussi le
mauvais choix. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi,
c'est pas
le terrain.
Oui, mais le problème c'est que c'est pas l'idée la plus intelligente qu'on ait eue, mais c'est celle qui a le plus fait parler
de nous, cette année.
Ça fait aucun doute. Et le problème, c'est que c'était devenu... Pardon?
Non, je lançais un appel à nos téléspectateurs auditeurs qui nous envoient sur le hashtag RMC Live leur candidat pour cette saison.
Ah ben voilà, on verra si
ouais, sinon, on le récupère, on le fait ensemble. Hein.
Attention, on a déposé la marque.
Ouais, on le fait ensemble.
Ah, il faut dire le ballon de plomb cahier du foot, comme il faut dire le ballon d'or France Football.
Non, on n'est pas au niveau
vous
de la FIFA
relou.
Encore. Ouais.
Oui, non, c'est le ballon.
Non, mais c'est vrai qu'à l'arrivée, tout le monde comprenait ça comme l'élection du plus mauvais footballeur. C'était très.
Non, c'était plus subtil que ça.
Ça devenait méchant en fait. Par exemple, il y a eu un malentendu. Avec Bernard Mendy, qui était le premier lauréat, c'était Francis Liasser. Il y avait pas meilleur, quoi. Une espèce de brute un peu féroce, très attaché à son club, qui avait pas un niveau exceptionnel, mais qui se battait énormément.
Je suis inquiet parce que je connais les deux, je les ai côtoyés.
Bah oui. C'était le meilleur candidat, le meilleur lauréat, quoi. Et puis un peu plus tard, il y a eu Bernard Mendy, et on aimait beaucoup Bernard Mendy, quoi.
Oui,
c'était cette saison où il déborde Roberto Carlos, il joue en équipe de France.
Bien sûr.
On le voit 2004. Un petit peu plus haut que son potentiel
réel.
Moi,
j'ai un candidat naturel pour cette année, c'est Mitroglou.
Ah ouais.
Il
est parfait.
Ah non, parce que c'est méchant aussi, parce qu'il a rien dit, il a bossé, il a quand même servi à
quelqu'un. Oui, c'est bien, mais c'est dans les nominés, quoi.
C'est
un million.
Mais d'ailleurs,
ça compte. Le transfert, ça comptait beaucoup dans le
ballon.
Non, Mitroglou, il était candidat idéal.
Il est très attachant, mais je suis.
Ah, justement, c'est ça.
Ou alors, c'est que je ne vois pas.
Dans le ballon plomb, t'es attachant.
Ce que représente le ballon plomb.
C'est Mitroglou, il était candidat.
Parce que moi, le ballon plomb, pour moi, il doit y avoir un côté mauvais garçon aussi, quoi.
Non,
ouais, il y a eu ça souvent.
Bah sinon il y a qui d'autre, t'as qui d'autre comme candidat?
On propose Rabiot. On propose Imbula.
Rabiot avec ses déclarations.
Kurzawa. Oui, Rabiot avec ses déclarations.
Kurzawa, ballon de plomb, très bien.
Ouais. Kurzawa, oui, mais ça bien. Oui, pour toi ouais. Toi tu voterais pour lui.
Entre lui et Mitroglou.
Non mais attention.
Kurzawa.
Non, mais attention, ballon de plomb, ça reste un titre. Messieurs dames. Donc faut quand même que il y a tu vois que tu aies un peu de comment dirais-je d'attachement à la personne, tu vois. Kurzawa, toi, t'as pas d'affect pour Kurzawa, par exemple.
Il connaît bien.
T'as un peu d'affect pour Mitroglou.
Oui. Voilà. Oui, plus, oui.
Donc c'est pas le meilleur moyen de dire aux joueurs qu'on les aime bien, de leur donner un ballon de plomb, en fait.
Mais
on fait le ballon d'eau fraîche chaque année, ça, on a maintenu, c'est l'équivalent en mode bon esprit, quoi.
On propose Ben Arfa, évidemment.
Il a été candidat aux deux trophées, lui.
Comment a-t-on pu oublier, je remercie AK84, Patrice Evra.
Ah ouais, c'est vrai trop facile, il a joué qu'une moitié de saison, trop facile.
Il était éligible. Il y en a plein des candidats potentiels. Ouais. Ça tombe. Donc on a aucune chance de Andy Delors, on me dit également.
Non, il faut que ce soit quand même un mec.
Ça c'est un cadet qui dit ça.
Peut-être. Enfin, c'est Dwayne 56, c'est peut-être du Morbihan. Ah. Donc c'est mort, on verra plus le même plomb.
Non, on a envie de faire autre chose aujourd'hui. On fait ça, c'est déjà beaucoup de travail et beaucoup de plaisir.
Le ballon d'eau fraîche, c'est quoi du coup?
C'est l'équivalent bon esprit. Le joueur, plutôt le.
Ça ouais, le mec, un
beaucoup des joueurs fidèles comme
Bernard aurait pu l'avoir,
Il aurait aussi pu l'avoir, ouais, tout à fait. Mais il y avait Dieuze, par exemple, il avait été candidat au ballon de plomb une année, parce qu'il fait vraiment une très mauvaise saison.
Dieuze, il est descendu avec
Toulouse
tous les clubs.
C'est l'année où Toulouse descend.
Il a fini à Luznac, le pauvre, ou ça
il pète un câble sur le terrain.
Il est sympa en plus, Dieuze.
Et puis, l'année d'après, il est candidat au ballon d'eau fraîche, parce que justement, il avait super bien pris sa nomination au ballon
d'eau fraîche. Ballon d'eau fraîche de l'année.
Ballon d'eau fraîche
de l'année, Gilbert. Ballon d'eau fraîche de l'année.
Dimitri Liénard.
Je pensais la même chose que toi. Liénard, ballon d'eau fraîche de l'année.
Il faut qu'on l'organise. Vous me faites penser qu'il faut qu'on l'organise là. C'est pas.
Ballon d'eau fraîche ou sinon Dalloglio, un entraîneur, ballon d'eau fraîche ou le club de Strasbourg dans son ensemble, ballon d'eau fraîche.
Ouais, avec les supporters inclus, ouais, ouais. Ça serait pas mal.
Ouais,
ballon d'eau fraîche.
Ah oui, c'est.
Il manque le côté marron, peut-être, non? Un petit peu, non?
Côté quoi?
Un peu côté humour. C'est pas marrant ce qu'ils ont fait.
T'en parles jamais d'ailleurs. Tiens, t'as un problème avec ça?
Tu n'écoutes pas l'after tous les lundis parce que j'avais fait un avis tranché sur
parce
Strasbourg.
C'est quoi les trucs marrants? T'as des trucs marrants, toi?
Non, mais un petit truc en plus. Strasbourg, ce qu'ils ont fait, c'est bien, quoi. Voilà, c'est beau.
C'est quoi qui est marrant? Dis-moi un truc qui est marrant.
On avait eu Jérémy Jeannot comme lauréat. Il est arrivé en Spider-Man quand même sur le terrain.
Ouais, tu vois, voilà, exactement.
Il faut un truc en plus, Pierre.
Excellent ballon d'eau fraîche, Jérémy Jeannot.
Oui, oui.
Beau ballon de plomb pour Assou et Koto, me dit Brooke.
Non. Ça sert à rien, c'est une ambulance.
C'est Barton il, dans sa biographie, je sais pas si vous l'avez lu, c'est une des rares biographies très intéressantes, je trouve, avec celle de Dorasso d'ailleurs dans les récentes. Et Barton, il parle d'Assou et Koto en disant qu'il avait jamais vu un énergumène comme ça dans toute sa carrière, quoi. Que c'était pas possible qu'il était tout le temps en train de déconner, mais qu'il énervait Barton, ce qui est pas une très bonne idée, hein, en général, quoi.
Ouais, non, mais
Benoît Assou-Ekoto a marqué Joey Barton quand même. C'est à noter, quoi.
Ouais.
Le gars qui commande ses pompes de foot sur Amazon ou sur eBay. Pour un pro, quand même, c'est quand même.
Ah oui, c'est rare, oui.
Bon.
Ah, surtout qu'il peut accrocher un petit sponsor, je pense, quand même.
Non, mais il veut pas.
Il dit,
moi, je veux pas être le suppôt du grand capital des marques.
Ah bah il pourrait être ballon d'eau fraîche avec ce genre de déclaration.
Ouais. Ah ça te plaît ça.
Ouais, c'est un peu plus.
Ouais, vas-y, on va étudier son dossier.
Dépense ton argent.
Le truc d'insoumis à deux balles.
Dans quelques instants, l'actu internationale. Jérôme, tu restes avec nous. On va parler Italie, on va parler Belgique. Les Belges, ils ont nous inventent des histoires. Ils sont aussi forts que les Français, les Belges. Là, ils ont une histoire de matelas fantastique. Et puis l'Angleterre. Il va falloir qu'on fasse le point sur les rumeurs Laurent Blanc, d'ailleurs, avec Philippe Auclair dans quelques instants. Et puis, sinon, je vous dis que Touchdown nous dit la Sanadira, bien sûr. Il devait jouer contre le Real et finalement, il a même pas joué contre Caen, nous dit-il.
C'est vrai que la Sanadira, il a ballon de plomb pas mal.
C'était possible. Allez, à tout de suite, Nanas.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Ils sont là, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Jérôme Lattal et Cahiers du Foot. On va accueillir dans quelques instants Sacha Tavolieri, notre spécialiste de la Belgique, tout comme Philippe Auclair et David Lorto qui va nous rejoindre. Juste avant, je conclue sur le ballon de plomb parce que là, tombereau de messages les gars. J'ai Brooke qui me dit ballon d'eau croupie pour Benjamin Nivet. Parce que le ballon d'eau fraîche, ça marche. Adil Rami, me dit-on, pour le ballon d'eau fraîche.
Ça marche.
Ouais. Et puis on me dit, moi je donne le ballon de plomb au Cahiers du Foot pour la disparition du ballon de plomb.
Bah, tu l'as déjà dit tout à l'heure?
Non, je l'ai dit pendant la pub. Donc c'était entre nous.
Ah c'est dans la pub que tu l'as dit.
Le concept de la pub, c'est qu'on n'est plus à l'antenne, Damien. En fait. Je sais que t'as tendance à continuer les débats, mais.
Ah mais moi personne je m'arrête jamais, enfin, moi, par nous. Je savais pas.
Philippe, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Salut Philippe.
David, bonsoir.
Salut les amis.
Allô Freunde, salut à tous.
Et Sacha, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Eh oui, la Belgique est là, messieurs dames.
Bah, la Belgique avec les joueurs et l'équipe qu'ils ont, et il manquerait plus qu'on n'ait pas la Belgique dans l'after.
Alors, on va démarrer par toi d'ailleurs.
Sauf que je pense avoir peur là. Bon, il va nous faire peur championnat. Mais parce que moi, ça me dépasse que cette équipe avec autant de bons joueurs, on la mette pas dans les outsiders, mais les plus chauds.
Parce que c'était déjà le cas il y a 2 ans.
Et ouais, voilà. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver le truc, le bon.
C'est peut-être cette année
les pièces du puzzle.
Je veux dire la vérité, c'est pas plus mal. Franchement, on a beaucoup souffert de cette statut de presque favori en Belgique.
À quel moment vous l'avez eu ce statut-là de presque
l'euro,
favori,
il y a deux ans, à l'euro ouais. Quand même, on était quand même
pas favori, tout le monde, on attendait un gros parcours.
Ouais,
mais j'ai l'impression que vous avez peur.
Non,
que vous assumez pas, vous avez que des super joueurs.
Philosophiquement, c'est pas une peur, c'est une non-habitude d'être en haut. Dans le haut.
C'est-à-dire un complexe, que un complexe, une forme de.
Oui.
En fait, vous êtes l'Espagne des années 2010.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être l'Espagne de 2006. Ils vont se débloquer quand?
C'est possible. Enfin, j'espère en tout cas qu'on va se débloquer cet été.
Non, parce que il y a deux ans, vous vous débloquez pas. Vous avez les mêmes très bons joueurs parce que votre sélectionneur est bidon. Vous lui mettez un coup de chausson, il dégage. Vous en prenez un, vous dites il est bon. Alors, on y est ou on n'y est pas?
Oui, mais attends, si on part là-dessus, alors du coup, c'est même plus du football. On peut parler de la dynamique d'entre-soi en Belgique, du fait que c'est un petit pays et que au niveau de la variable de l'entre-soi, si tu veux, plus le pays est petit, plus l'entre-soi est grand, donc on peut moins bien travailler et c'est plus compliqué d'avoir des solutions.
L'entre-soi en Belgique, déjà, vous pouvez pas vous blairer entre francophones et néerlandophones.
Exactement. Mais donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à trouver un
solution. Attends, mais non, c'est pas vrai ça.
De quoi?
Mais non, mais cette histoire de querelle entre francophones.
Non, mais il y a pas de querelle. Il y a juste une difficulté à trouver un sens commun parce que les références sont différents, les imaginaires sociaux et collectifs sont différents.
Mais à côté de ça, t'as Thibaut Courtois qui est d'origine wallonne et qui parle flamand comme première langue. Simon Mignolet, c'est la même chose. Vincent Campagne, il parle flamand aussi bien. Non, mais c'est pas un peu simplificateur quand même?
Non, mais de mémoire, Philippe, la seule personne qui est titulaire dans le 11 de base, qui a dit que son idole quelque part était belge, donc son référent, ici je parle de référent, c'est Yann Vertonghen qui parlait de Philippe Albert comme étant son référent. Mais les autres, ils ont Thierry Henry, ils ont pour moi là ici je cite Christian Benteke et Romelu Lukaku. Il y a évidemment Ronaldo avec Eden Hazard, le Ronaldo brésilien, je parle Nazario da Lima ici. Voilà, c'est une
génération. Il y a des grands gens belges.
Il y a des grands joueurs belges, mais c'est cette génération-là qui est une génération qui a été attirée par d'autres choses, a été touchée plus par des...
Oui, c'est une génération Van der Elst, Chifo et...
C'est bien la référence Philippe Albert, c'est un sacré défenseur.
Ouais, c'est un super défenseur.
Raconte-nous l'histoire des matelas.
Alors, l'histoire
du week-end fantastique.
Donc, une télévision flamande nationale qui s'appelle la VRT a fait un reportage sur les contours de l'équipe nationale. Donc là-dessus, tout va bien. Sauf que quand on fait un reportage sur les contours, on fait aussi, donc il existe des matelas qui sont faits selon les morphologies des joueurs. Mm-hmm. Bon, ok, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que
ce ne sont pas les seuls à les avoir, je pense. Hein.
C'est qu'il existe 23 matelas, et sur ces 23 matelas, ils sont personnalisés, donc il y a les noms. Et donc du coup en faisant le reportage, les caméras ont évidemment capté les 23 noms. Et ça fait que je vais vous donner les réservistes.
Sauf que Martinez, il a pas donné ses 23, il a...
Exactement, la sélection c'est demain à 10h.
J'ai mis du temps à arriver au truc.
Mais c'est absolument fou et burlesque ce truc.
Ils ont pas fait gaffe.
Exactement. Donc en gros, on a 23 sélectionnés et 5 out qui seraient donc Cels, Don Dunker, Kabasele qui joue à Watford, Jordan Lukaku qui joue à la Lazio, et ce ne serait pas plus mal d'ailleurs, c'est que mon humble avis, mais bon, j'espère que vous êtes d'accord avec moi.
J'espère qu'il n'a pas son lit, lui.
Et Adnan Januzaj qui n'y est pas non plus.
Lukaku, ce serait une surprise ou pas en Belgique?
Mais en fait, on a un problème principal en Belgique, c'est à gauche, donc on a pas de latéral gauche, mis à part Jordan Lukaku, et certains...
Il n'y en a pas un des deux de droite, là, Simon, on ne peut pas aller jouer à gauche, là?
Simon n'a jamais joué à gauche.
Ah, mais d'accord, alors,
ça s'est quand même déjà vu,
le mec qui bascule.
Juste pour Colmaté.
Moi, je trouve ça juste génial que le mec s'appelle Simon et que le défenseur.
Donc les 23, c'est bon. On reprend dans l'ordre. Nainggolan, c'est digéré?
Nainggolan, c'est bon. Je me suis calmé,
sur la liste des matelas, là, vous passez.
C'est digéré.
C'est-à-dire que la sélection, l'annonce de la sélection, c'est faite avec des matelas.
Mais attends, mais le pire, c'est qu'il y a une suite à cette histoire. C'est-à-dire que derrière le CEO de l'entreprise qui fabrique les matelas, téléphoné à tous les médias belges, le patron, effectivement, en disant, mais c'est n'importe quoi, c'est un canular, je crois qu'on s'est fait avoir, etc. Alors que pas du tout. C'est-à-dire, la VRT, il venait pas pour essayer d'aller chercher les 23 noms. Il venait pour faire à la base.
Les matelas.
Tu vois, c'est des trucs, mais c'est absolument burlesque. Et le truc, c'est que ça a été repris dans Sky Sports. Je crois que Philippe, Sky Sports a fait un article, je pense, non?
Sur quoi, mon chéri?
Sur les matelas. Les matelas.
Oui, absolument. On a eu droit à ça. On a eu droit à ça sur pas mal de sites anglais.
C'est incroyable. Incroyable. Et on est la risée de l'Europe. Alors, d'accord, c'est drôle.
Mais ça n'a pas été du tout compris comme ça. On s'est plutôt dit, mais c'est une préparation.
Arrêtez de préparer. C'est formidable. Voilà. Les journalistes n'aient pas fait gaffe, quoi. Et ne se soient pas rendus compte de la supercherie, quoi. Enfin, de la gaffe, plutôt. De la gaffe, quoi.
Moi, ça m'a laissé quand même un petit goût amer en me disant, bon, on aurait pu quand même éviter de faire ça. Parce qu'on s'est déjà bien fait remarquer, parce qu'il y a 28 sélectionnés alors que tout le monde faisait des 23 plus 12 comme Deschamps l'a fait d'ailleurs. On a fait une sélection en plus le 21 alors que tout le monde rendait les noms le 15.
Arrêtez, nous, donc c'est pareil, les Français, nous regardons, on a Rabiot qui gueule, après on a Zidane qui se casse, qui tout le monde veut sélectionner tout de suite. on est comme les Belges.
Ouais, mais c'est à l'extérieur.
Mais vous aimez bien vous
flageller, vous. Ouais, j'ai l'impression.
La liste.
Alors la liste, c'est demain dès 10h du matin. Donc ce sera une liste de 23 noms définitifs, mais par contre il y a 24 noms qui potentiellement seront annoncés parce que il y a la possibilité, donc la FIFA donne la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un joker médical parce que il est arrivé quelque chose quand même d'assez important. 53e minute, blessure encore une fois de Vincent Kompany qui part, le public n'avait même pas vu qu'il était parti. Ah, ça c'est un truc de fou. Donc 53e minute, il est remplacé par Dedric Boyata, le public ne sait même pas qu'il est sorti. Il sort, c'est limite s'il n'est pas annoncé dans la discrétion la plus totale. Griezmann mais absolument incroyable, tout le monde qui flippe et Martinez qui dit qu'il est inquiet. Donc demain, ce sera vraiment important de savoir ce qui va se passer.
J'ai le droit de dire un truc qui va choquer Philippe Auclair.
Allez, vas-y.
Vas-y.
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que Kompany ne vienne pas.
Eh bien, écoute, en 2014, je ne t'aurais pas dit ça.
Oh. Non mais ça va pas nécessairement choquer. J'ai vu le prince cette année avec Manchester City. Ça n'a pas toujours été fantastique. Hein.
Le prince.
Bah oui, Vince, alors, le prince.
Alors, non, je l'aime beaucoup. C'est un type formidable et tout, mais je...
C'est un type formidable, absolument.
Vraiment, mais ça me fait de la peine presque de dire ça pour lui, parce que mais franchement, je pense que la Belgique sera meilleure sans lui.
Je vais abonder dans ton sens, absolument. Qui fait
quoi,
la mauvaise relance
Vertonghen
dans les pieds
avec qui?
Là pour le moment c'est, on sait même pas encore si Kompany.
C'est con parce que Laurent Simon il aurait pu jouer avec Pascal Pierre.
Il passe un scan aujourd'hui. Pardon. Non, vas-y,
je disais que Laurent Simon il aurait pu jouer avec Pascal Pierre, mais il est pas belge.
Ah oui, effectivement.
Pierre et Simon, c'est Pierre et Simon, ça fait un bon, ça, ouais, ça fait
Pierre
un bon
et Simon,
mur.
Voilà, Granit Xhaka. Mais alors, ce serait une défense portugaise pour aller dans le cliché.
Pierre et Simon, franchement, il y a mieux là. Excuse-moi.
Bah, c'est ce que je peux. Hein,
mais
pardon.
Excuse-moi. Non, t'aurais dû dire, les Belges auraient pu avoir comme gardien Dutruel.
Joli.
Là, on est mieux.
Ceci dit, sur le débat Kompany, rappelons quand même aux auditeurs, quart de finale de la Coupe du Monde 2014, mauvaise relance de Vincent Kompany, but directement, conséquence directe, but de Higuaín, la Belgique est éliminée sur un but de Higuaín face à l'Argentine en quart de finale en 2014 à cause de Vincent. En quart de finale face au Pays de Galles, Vincent Kompany n'est pas présent parce qu'il est blessé et il lâche ses coéquipiers dans des circonstances un petit peu bizarres où je sais pas, ce mec est un leader et il fait tout pour
c'est un leader un peu faiblard.
Ouais, c'est un leader un peu faiblard, ouais.
Bon, donc alors maintenant c'est bon, il s'est barré lui.
Ouais.
Avec qui vous jouez derrière?
Non, je suis pas sûr encore.
Allez, avec qui est-ce qu'on joue derrière?
À 3 ou à 2?
Dans quel système est-ce qu'on joue? Mais non, mais c'est trop facile de jouer
derrière. Voilà. Bon, OK.
Bon,
moi je l'ai pas dit comme ça pendant un an sur SFR.
Je crois qu'il y a des noms belges.
Je suis là pour ça. Charles.
Tu as essayé, tu n'as pas été loin par moment, mais
Alderweireld. Ça, je te dis que l'accent néerlandais en plus et tout.
Ah ouais, je l'ai
pas dit. On pourrait faire un concours en la Coupe du Monde. Quelle est la sélection qui a les mecs les plus durs à dire?
Ça dépend si tu les dis en langue locale ou
oui,
en français.
Non, mais nous, on doit les lire nous, quoi.
Les Coréens,
bon,
Alderweireld.
Ah, alors,
si tu veux
tout Kim.
Non, si tu travailles.
Mouli.
Ah, si, la plupart c'est Kim Mouli, voyons,
bah,
Jérôme.
Oui, mais c'est Thierry Roland qui nous avait dit d'ailleurs. Vous avez dit qu'avec tous ces lits, on pouvait faire une chambre.
C'est l'autre partie du nom qui porte.
Non mais honnêtement,
je ne cautionne pas ces faux.
Alors ça, c'est un humour que Jérôme Latane ne peut pas supporter.
Ouais, ça c'est
vraiment pas un soumis comme humour.
Ouais, mais c'est un peu drôle quand même.
Ouais, pourtant c'est drôle.
Ouais, mais non. Si tu le fais avec les Américains, ça peut le faire marrer. Mais pas.
Ouais, mais
avec des
dur.
Pays supposés. Bon bref, passons.
Donc tu joues avec ta défense à 3, Alderweireld, Vertonghen, et donc s'il n'y a pas Vincent Kompany, solution Leander Dendonker, défenseur central du RSC Anderlecht, Laurent Simon, défenseur central du Los Angeles Football Club, et ou alors Dédric Boyata, titulaire du côté de l'Écosse.
Ah, c'est pas... toujours pas s'ils vont jouer à 3 en défense centrale
mais
ou à 2.
Mais si, c'est le système qui veut, mais moi je trouve que le système n'est pas adapté.
Non, vous êtes ça, super mal en fait là, avec les noms que tu viens de lâcher là, non?
Ils sont mal, sauf si on se réoriente vers le système.
Moi, je veux bien, je veux pas contester.
Et Vermaelen qui est toujours blessé, évidemment. Attends,
moi, je veux pas contester, t'as le droit d'avoir tes envies.
T'as pas cité Meunier, là.
Non, mais Meunier, couloir droit.
Meunier, si latéral droit. Alors,
avec de la défense centrale. Voilà, ouais.
Non, mais alors, t'as le droit d'avoir tes choix et tes préférences. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est ceux de Roberto Martinez.
Ceux de Roberto Martinez, à l'heure actuelle, on se dirige vers Leander Dendonker, si tu veux.
Donc,
titulaire.
Ouais. Meunier, couloir droit et couloir gauche.
Et couloir gauche, c'est Yannick Ferreira Carrasco ou Nasser Chadli, qui, je le rappelle, a joué 40 minutes de temps de jeu en 2018, a joué plus de temps de jeu lors de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire il a joué à peu près 47 minutes.
Il parle de l'Australie.
Non, mais c'est la vérité. Nasser Chadli, il a joué 47 minutes.
Mais les deux dans ce rôle-là, ils peuvent pas. C'est pas fait pour eux, moi, je trouve.
Mais bien sûr,
Meunier, il peut couloir droit comme ça.
Non, mais c'est pour ça. Tu parles de Chadli et de
les deux.
Mais c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation pour contenter tout le monde. Ça, j'en parle depuis un an.
Après, avec la Belgique, De Bruyne, il joue au milieu ou dans les trois.
Numéro 8, à côté d'un 6 qui était Moussa Dembélé, titulaire donc face au Portugal, qui pour la première fois effectivement a remplacé Witsel, qui était bon, vous le savez, un titulaire indiscutable du côté de.
Tant mieux. Comment ça, être un peu free.
Oui, il était même pas dans le groupe.
Ok, alors donc Dembélé, le gars de Tottenham qu'on aime bien.
Okay. Bon,
De Bruyne, avec qui
à gauche Carrasco, Yannick Ferreira Carrasco. À droite,
Meunier.
Attends, Thomas Meunier.
Ouais. Comment alors Carrasco, tu le mets à deux postes ou
non, Yannick Ferreira Carrasco, il fait le piston.
Pierre suit déjà que c'est compliqué.
Tu mets Ferreira à un endroit et Carrasco à l'autre.
Exactement, une très bonne solution.
Et après, attends, il en manque un au milieu là.
Non, t'as Mertens de 4 à plat, Mertens en 9,5, Hazard, Eden en 9,5, le plus proche possible du but. Et alors numéro 9, Romelu Lukaku qui a été en tout cas.
Non mais
offensivement,
ils ont
mis deux. Je suis désolé, j'ai pas compris.
C'est un bout que j'ai du mal à
4-2-1.
3-4 ou en 4-2-1 si tu veux, ouais. D'accord, ok.
Ça c'est important.
Bon, Lukaku, il n'avait pas son nom sur le matelas, on est d'accord.
Le frère,
c'est pas le grand.
Il y avait aussi les prénoms sur les matelas en fait.
Exactement.
Alors non, ça reste avec nous.
Tu sais lequel c'est.
Donc 0-0 contre le Portugal, je le rappelle, ce week-end la Belgique. Philippe.
Oui.
On va parler de ta sélection anglaise, mais juste avant, reçoit des dizaines de tweets ce soir sur l'histoire Laurent Blanc à Chelsea. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bonne rumeur relayée par Sky Sport?
Relayée par Sky Sport, c'est qu'il en fait partie d'Italie.
Ah.
C'est parti c'est une info, et je hais ce mot d'info parce que ça ne signifie absolument rien. Cette rumeur qui est partie de la Gazzetta, qui a été reprise par Sky en Angleterre, qui est repartie en Italie, qui est revenue en Angleterre, qui a donc fait le billard à 3 bandes, 4 bandes, 12 bandes, 15 bandes, etc. Et maintenant, on est dans le Laurent Blanc et le nouvel entraîneur de Chelsea. Pas du tout, non, absolument pas. On est dans la rumeur la plus totale et... peut-être qu'il y a un intérêt de Chelsea pour Laurent Blanc, ça je ne le nierai pas. Il y a eu en effet un contact qui a été pris. Je n'y croyais pas, j'en ai eu la confirmation. De là à ce que Laurent Blanc soit le prochain entraîneur de Chelsea.
Mais donc il y a encore comme piste parce qu'on a l'impression que Chelsea
Luis Enrique.
Ah mais oui, en plus
Sarri ça a été mis à l'étude, mais visiblement il y avait des petits problèmes au niveau de la personnalité.
Il va vivre à Londres le mec.
Oui, non, mais il y a eu des problèmes à ce niveau-là, mais d'un autre côté, n'oublions pas.
Sa clope,
il aura du mal. Le survêt, à la limite.
Je le vois pas. Avec Roman Abramovich, tu vois Sarri devant lui.
Ah bah, tu sais, Roman Abramovich, en ce moment, il est devenu citoyen israélien. On sait pas très bien quel va être l'avenir de son engagement au club, dans la mesure où ils ont annoncé que les travaux pour augmenter la capacité de Stamford Bridge avait été mis au congélateur. Et quand je dis au congélateur, c'est au cryogénisateur, en ce sens que ça sera un petit peu hibernatus.
Le nouveau stade là, il est.
Ah bah non, c'est hibernatus. On oublie.
Paul Fournier.
On oublie.
Alors juste israélien parce qu'on lui interdisait l'entrée du territoire anglais récemment là.
Ah oui, c'était le renouvellement des papiers.
C'était le renouvellement de son visa. Et voilà. Il avait des problèmes de visa pour entrer en tant que citoyen
israélien.
Quand tu vois, ça arrive à tout le monde.
Mais je ne pense pas qu'il aurait obtenu un passeport israélien dans le laps de temps qui s'est dépassé entre le moment où le visa lui avait été refusé, le moment où, où la nationalité lui a été accordée. Donc je pense que c'était un petit peu...
Oui. Vadim Vassiliev, lui, a un passeport maltais. C'est un grand truc des citoyens russes. Bah oui. Mal, tu peux acheter un passeport.
Ah oui. Bah c'est très pratique parce que c'est un passeport européen, donc ça permet, ça permet, ça permet en effet.
Ouvrir des comptes bancaires à Malte aussi. Voilà, mais pourquoi À quoi il sert ce passeport
C'est un passeport de l'Union européenne.
Bah oui, t'es européen.
Donc ça te facilite le.
T'as plus de visa, de machin.
Et pour planquer le blé, c'est bien.
Ouais, c'est
beaucoup de joueurs de poker.
Et c'est légal.
Vont à Malte.
Bah je vais peut-être y aller alors.
1 million d'euros.
Faudrait que je gagne un peu. Non, mais ça, poker, c'est pour d'autres raisons, là. Là, c'est juste pour pas avoir besoin de visa.
Ça sera les trucs à l'envers, moi. C'est avant de gagner le million au poker, j'y vais.
Il y a aussi l'histoire fiscale, hein.
Ils se font la Malte.
Pas mal.
Bravo, bon, pas aussi bien que Dutruel et Simon.
Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est dimanche soir, il est tard, quand même.
Ouais, on verra ça plus tard.
Sur les genres de passeport, après tout.
Et les fiscales,
c'est pas très important. Bon, donc voilà, on évacue le sujet de Chelsea. On va parler de l'Allemagne avec l'Orto, bien sûr, dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux nous dire de plus de la performance convaincante de la sélection anglaise ce week-end?
Demi-convaincante.
Face au Nigeria, 2-1.
Ouais. Non, mais bon, un nouveau succès pour Southgate au niveau du résultat. Une première période qui a été très réussie. Très séduisante, beaucoup de rythme, beaucoup d'inventivité, franchement beaucoup de bonnes intentions et beaucoup de bonnes réalisations également. Deuxième période un petit peu plus compliquée lorsque le Nigeria a changé de formation tactique, mais bon, ça continue de confirmer ce que l'on pense depuis un petit bout de temps, à savoir que Southgate sait exactement à quoi son équipe va ressembler, quel type de jeu elle va pratiquer. Il y a une identité qui est en train de se dessiner avec de jeunes joueurs. Ça le fera peut-être pas en 2018, mais bon. Franchement, moi je vois pas de raison de m'inquiéter trop pour cette équipe d'Angleterre qui me paraît partie sur de bonnes bases, voilà.
Mon petit Lorto, que se passe-t-il en Allemagne?
Et qui est coté à 16 contre 1, ce qui me ravit, parce que ça veut dire que pratiquement personne ne croit à ses chances.
Et les Nigérians, puisque tu les as vus là avec leur...
On arrive Lorto, attaquez.
Ah mais les Nigérians, deuxième période. Deuxième période, ils m'ont impressionné. Hein.
Qui sont les leaders de cette équipe-là? Victor Moses. Il paraît qu'il y a
Moses, c'est un des leaders. Non, mais c'est John Obi Mikel, bien évidemment.
C'est incroyable quand même.
Mais dans un rôle complètement différent, tu ne le reconnaîtrais pas. Enfin bon, tu le reconnaîtrais.
Il est redescendu un peu sur le terrain.
Non, il est remonté. Il est de nouveau dans le rôle qu'il avait en 10, absolument.
Là où il a commencé sa carrière.
Exactement.
Incroyable.
Et je peux te dire, il a été bon, très bon même, et des joueurs que tu vois. Peiner parfois avec leur club comme Iwobi, comme Igalo, comme
Moussa. Ça m'étonne pas. C'est des
et tout d'un coup avec le Nigeria
en sélection, c'est autre chose. Ouais.
Mais John Obi Mikel, franchement, je le retrouve comme on le voyait à ses débuts, si tu veux, quand il était en Norvège.
Non, il a 45 ans, Obi Mikel.
Non, il doit avoir 30 ans, pas plus que ça. Il avait 17 ans quand il est.
Mais il a commencé très tôt. Si, il a commencé tôt.
John Obi Mikel, quand il était à Lund, en Norvège, il avait.
Il est Nigeria, John Obi Mikel? Attends, je vérifie ça.
Il a 31 ans.
Seulement? C'est hallucinant.
Oui. Non, mais il avait 17 ans quand il s'est révélé.
Il était énorme. Très, 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 très jeune, mais bon, 31 ans, d'accord.
Et d'autre part, bien évidemment, pour le Nigeria, tout le monde est tombé amoureux du maillot qu'ils ont adopté pour la Coupe du Monde.
Là, moi, je crois qu'il y a un problème, là.
De quoi?
Pourquoi?
Non, mais vous le trouvez beau, le maillot, vous?
Ah ben je te demande, c'est pas une question de le trouver beau.
Très tendance. Très tendance.
Attends, je voulais dire largement le maillot de l'Angleterre hier soir.
Il y a un problème de tendance. Magnifique. C'est une espèce de revival des pires horreurs là. Les Pays-Bas 88 avec des motifs comme ça, visiblement.
C'est vrai que ça ressemble beaucoup.
Mais écoute, ça réussit aussi mal qu'aux Hollandais en 1988.
Les autres les gars, sinon on n'entend rien. Philippe.
Non mais je dis c'est si ça leur réussit aussi.
Les Anglo-Saxons ont l'air amoureux de ce maillot et j'ai l'impression qu'en France c'est pas
non, mais ouais, il y a eu plus de
ils en ont vendu 3 millions en l'espace de quelques heures.
Il y a eu 2 millions de précommandes alors qu'elle était même pas en vente encore.
Il y a vraiment un problème esthétique avec cette époque.
Ce que je peux dire c'est qu'en tout cas
Jérôme t'es pas en phase.
On en parle énormément. Enfin je veux dire j'ai des potes à moi et tout ça qui m'en ont beaucoup parlé.
Alors
bien
sur la musique textile, en revanche les Belges ont refait le maillot de 84.
Bien
sûr. Le maillot avec les un peu jacquard. Là.
Ouais, tout à fait.
Vous auriez peut-être dû faire celui de 86 parce que vous avez fait 4e plutôt que 84, vous avez pris une tarte.
Ah ben ça j'en sais rien. C'est pas moi qui travaille chez Adidas, cher ami.
Mais de toute façon, le plus beau maillot, c'est celui de la sélection péruvienne et qui dit le contraire aura tort. Ça c'est pas compliqué.
Ah t'aimes bien.
Bien sûr, le plus beau maillot,
c'est le plus beau maillot.
C'est le plus beau maillot de très très loin.
Oui, si.
Ah oui, c'est magnifique, c'est mythique.
Ouais. C'était le même en 82 d'ailleurs, non?
Écoute, je crois que c'est le même depuis toujours.
Bah oui, il fait rouge dans le maillot.
Il refond. David.
Excellente intervention, David Lortho.
Oui, mais tu vas comprendre pourquoi, Gilbert, je reviens dans le temps. Ah bon. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite.
Ah d'accord.
Bah c'est à toi, justement.
Bah justement.
On y va. Que se passe-t-il en Allemagne qui ne gagne pas les matchs amicaux?
Oui, et puis qui n'avait pas perdu contre l'Autriche, le pays voisin du Sud, depuis le 29 octobre 1978.
Ouais, bah, quand même. Certaines époques, ils ne perdaient pas contre l'Autriche.
Oui.
Comment ça se fait, ils ne sont pas arrangés sur ce match?
Alors en fait c'était assez bizarre parce que bon c'était la fin de la session d'entraînement des Allemands de la Mannschaft, enfin des 27 puisqu'ils seront 23 demain matin mais ils sont encore 27. C'était la fin de la session d'entraînement à la frontière au nord de l'Italie, hein, dans le Tyrol du Sud. Et on a fait un match organisé ce match amical contre l'Autriche à Klagenfurt qui n'était pas très très loin. Trompe d'eau avant le match, repoussé de plus d'une heure. Alors ça n'est surtout pas une excuse, hein, et le sélectionneur d'ailleurs s'en est bien gardé, une excuse par rapport à la défaite assez piteuse quand même contre cette équipe d'Autriche. Alors, il y a un truc surprenant, donc 27 joueurs, il va en rester 23 demain je le disais, et il y a un truc surprenant, Joachim Löw avait aligné hier soir une équipe un peu bis avec des joueurs comme par exemple Nils Petersen en attaque qu'on risque de ne pas voir du tout au Mondial, sauf surprise. Qui fait partie d'ailleurs de la shortlist qui pourrait être rayée demain matin de la présence au Mondial. Et alors, ce qui est assez bizarre, c'est que Gundogan et Khedira étaient alignés ensemble au coup d'envoi, au milieu défensif. Il y a des joueurs qui sont mis au repos, hein. Kroos était à peine arrivé. Bon, ça peut expliquer. Mais à la sortie de ces deux-là, à la mi-temps, alors que l'Allemagne avait pris l'avantage avec un but de Zille assez tôt dans le match, qui était plutôt bien organisé cette équipe, elle s'est retrouvée complètement désorganisée à la sortie de ces deux-là à la mi-temps. Alors c'est un aspect parmi d'autres de la prestation tactique de l'Allemagne. Je me demande si le sélectionneur, à force de tenter des choses, à force de renouveler aussi les forces en présence, figurez-vous qu'il y a quand même 24 nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette équipe depuis le Mondial. C'est quand même énorme dans les joueurs qui ont été essayés, notamment Nils Petersen, comme je disais, qui a fait sa première sélection hier soir. Je me demande si à force de tenter des choses, il va pas finir par se noyer, parce qu'il y a plein de certitudes quand même, mais par perdre un peu la boussole. On connaît l'équipe type. Hein, ça, on la connaît, on peut la refaire rapidement. Neuer qui est apte, donc on l'a su aujourd'hui définitivement.
Et ce sera lui le numéro 1, c'est incontestable.
Non, c'est fait là.
Voilà, c'est fait. Il y a eu encore une analyse médicale, un contrôle médical aujourd'hui, et il y a le feu vert. Il sera numéro 1 puisqu'il n'y a pas d'alternative. Hein, c'est lui ou rien. S'il est là, c'est pour être le numéro 1.
Si Wolfhard, machin truc, ton ami Gilbert a dit que c'était OK, c'est OK.
Oui. Il est bien présent.
Hans Müller, c'est ça?
Müller Wolfhard.
Hans Müller.
Hans Wilhelm Müller Wolfhard.
Premier sur la chirurgie esthétique.
L'homme qui ne vieillit jamais.
Alors d'ailleurs, c'est amusant pour ceux qui parmi nos auditeurs, jeunes auditeurs, sont des adeptes des jeux de management football sur PC et autres consoles. Hans Wilhelm Müller Wolfhard, vous ne pouvez pas le prolonger son contrat. Depuis des années et des années, il est programmé dans les jeux, dans l'intelligence artificielle, pour ne pas pouvoir prolonger son contrat. Comme quoi, ouais. La fiction parfois est complètement dépassée par la réalité. Bah, tu peux pas. Tu demandes à prolonger son contrat si tu es sélectionneur de l'Allemagne ou si tu es dirigeant du Bayern, mais ça fonctionne pas. C'est pas prévu pour. Enfin bref, ça c'est une parenthèse.
J'ai pas vachement compris le truc.
Ouais, moi non plus. Rien,
ça veut dire qu'il reste indéfiniment ou
Ça veut dire qu'il part dès que tu cherches à renouveler son contrat.
Ah d'accord. Okay. Ah d'accord.
Bon bref, c'était une parenthèse.
Ouais,
donc cette équipe, Neuer, attends,
si tu t'es
Kimmich,
compris, c'est bien.
Hector, Boateng, Hummels, qui ont été ménagés évidemment encore hier. L'un parce qu'il était encore légèrement blessé, Boateng à la cuisse, et l'autre parce qu'il a besoin de se reposer comme les autres joueurs du Bayern. Donc Boateng, Hummels devant, Khedira, Kroos, il n'y a pas de surprise. Timo Werner en attaque comme joueur axial, Thomas Müller à droite, Mesut Özil derrière lui, et puis à gauche, c'est là où la question se pose, est-ce que ce sera Marco Reus, est-ce que ce sera éventuellement Julian Draxler. Voilà, on va attendre le premier match, ça sera le 17 juin contre le Mexique. Avant cela, il y aura le match contre l'Arabie Saoudite quand même aussi, dans quelques jours, en fin de semaine prochaine.
L'Arabie Saoudite, ils jouent contre tout le monde.
C'est ce que j'allais dire. À chaque fois, j'entends un match amical.
Bah, ils sont à la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite. Ils sont
en mars, Italie la semaine dernière.
Ils sont la victime expiatoire dans le match d'ouverture contre la Russie.
Le Pérou, non?
Ouais, victime. La Russie. La Russie sont nuls.
Il y a un 0.
Nous sommes d'accord qu'ils sont nuls. La Russie, tu crois pas qu'il va y avoir une VAR à domicile?
Une VAR à domicile.
Ouais, mais non,
dis-moi juste, Laurent, avant de te quitter. Moi, j'ai regardé attentivement l'autre jour la finale de la Coupe d'Allemagne qui était géniale. Est-ce que Kevin Prince Boateng va au mondial avec le Ghana ou pas? Tu le sais, tu sais, je sais pas si t'as l'info. Hein,
Tu me poses une colle là, je t'avoue.
Parce qu'il a eu des fois, il venait pas.
Lui, il s'occupe du Boateng allemand.
Moi, j'aime bien le Boateng.
En tout cas, c'est un joueur de, c'est typiquement un joueur de coup et de coupe, hein. Effectivement. Ça collait pour la victoire de Francfort contre Bayern. J'ai pas vérifié pour le Ghana.
Il a marqué en finale de la coupe, le gars.
Peut-être dans les boîtes de nuit.
Mais il a marqué en finale de la coupe d'Allemagne. Il fait gagner Francfort contre le Bayern.
Mais il avait quitté quand même, on le rappelle, Las Palmas gratuit. Parce que il y avait vraisemblablement un problème là-bas, donc disons que c'est pas un joueur qui est dédouané de tout problème personnel.
Il est pas dans la
Masse. C'est vrai que c'est très très beau la Spalmas.
Messieurs, merci.
Mais il est pas dans le groupe, hein,
du Ghana.
Ben il me semble que non.
Non mais je sais pas, je posais la question justement parce que j'ai pas l'info. Bon, peut-être qu'il y est pas. On vérifie. Et je vous la donne avant minuit si on l'a. Sacha, merci.
Je vais vérifier, mais il me semble que non.
Philippe, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et à plus.
Ah, il y a un quiz.
David, merci également.
Bye bye.
Merci.
Bah oui, messieurs.
À très vite, les gars. Quiz dans quelques instants. Alors là, j'ai deux équipes de rêve. On va voir un peu le niveau. Oui, je précise que le Ghana n'est pas à la Coupe du Monde, hein, donc je sais pas pourquoi j'ai posé la question, mais
c'est pas grave, la vie est belle.
Non mais attends,
on va dire pour les matchs amicaux. On va dire pour les matchs amicaux.
Tu veux que je te dise, j'ai failli dire, mais ils y sont, mais en même temps,
moi j'ai même pas réagi.
J'ai tellement l'habitude qu'ils y soient.
Non mais comme quand tu parles de foot africain, t'es quand même un peu référent. Je me suis dit, dis pas ça, tu vas dire une connerie.
Tu vois.
Donc voilà, je sais pas où.
Non mais ils y sont le Ghana. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Attends.
Reprenons
les
bas.
Bon. Je vais voir les groupes.
On revient dans quelques instants. À tout.
On est plus loin.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Et bien sûr, sans le Ghana à la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi je l'ai rêvé, le Ghana. Ah, le Ghana, 2010 et tout, c'était top quand même. La main de Suarez.
Ah ouais, c'est surtout que c'est un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde.
Ah, c'est clair. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Jérôme Latalekia du foot, Sacha Tavolieri de la Belgique. Et Mehdi et Yanis. Mehdi, bonsoir.
Bonsoir Mafter, salut à tous.
Bonsoir Mehdi.
Mehdi, est-ce que tu prends l'équipe Riolo ou l'équipe Ducrot?
L'équipe Riolo.
Ah. L'équipe
est-ce
Riolo.
Est-ce que c'est à base d'enchères? Parce que cette semaine on a fait des enchères avec Jérôme, c'était que du bluff.
Yanis,
dans tous les
bonsoir.
Sens. C'était très bien.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Yanis, tu as choisi l'équipe Ducrot. Donc on va voir si tu as fait un bon choix. J'ai une super BD à vous faire gagner, je vous la montre. Football District de Timothée Osterman chez Fluide Glacial. C'est excellent. Vous jouez peut-être au foot les gars en district. Quand je dirais qu'on joue au foot, on est plus souvent en district qu'au PSG.
En fait, vous avez gagné.
Non, il n'y a pas de match hier.
C'est pas rien, la finale.
Il y a 4 minutes de quiz, dans cette prochaine. Il y a 4 minutes de quiz, donc faut aller vite. Attention, messieurs, dames. On va parler des matchs amicaux de ce week-end. Notamment du Brésil, qui a battu cet après-midi la Croatie. Attention. Qui a marqué le but? Le deuxième but brésilien.
Firmino.
Bien joué, Sacha. 1-0 pour l'équipe Riolo. Neymar rentré à la 45e. Il a marqué 23 minutes plus tard. But magnifique, hein.
Sublime.
Voilà. Donc il est là, tranquille. 1-0. Attention. L'Angleterre donc a battu le Nigeria 2-1. Je veux le nom du deuxième buteur anglais.
Kane.
Non, c'était pour
Trippier. Kane. Trippier.
Kane.
Oh. Oh,
et non pas Kane.
On l'a vu tout à l'heure dans les.
Kane. Tu l'as inventé celui-là.
Non, il a marqué le premier.
Kane, le défenseur.
Ah, Kane. J'ai dit, demandé le deuxième.
C'était Kane. Mais je suis gouré dans l'ordre. Bah, j'ai voulu répondre vite. Ça arrive.
C'était Harry Kane. Un partout. Attention, qui était dans ce match le gardien anglais?
Ah, mais je peux pas.
Scotland.
Non,
mais je sais son nom, mais je sais pas le dire.
Avec qui?
C'est le mec. Messi. Ah là là.
Mais tu sais dire un nom de club?
Mais le nom du club, il me revient pas, mais
Pickford!
Voilà. Ah oui.
C'est Mehdi ou Yanis? Yanis vient jouer.
Pickford, 2-1
pour l'équipe du Gros.
C'est Pickford. Voilà, merde.
Attention. Ce week-end, Danemark-Suède, 0-0. Vous avez suivi ce match?
Non, pas du tout. Yanis, tout repose sur toi.
Qui était l'avant-centre suédois?
Ibrahimovic.
Possible. Qui était l'avant-centre suédois?
Forsberg?
Gourmand. Non. Berg.
Suédois?
Putain.
Il joue à Toulouse.
Mais si.
Ah!
Toivonen. C'est Mehdi ou Yanis?
C'est Mehdi.
2-2.
Oui.
Attention, le match Belgique-Portugal. 0-0.
Boulevard.
Ah, mais là, c'est trop facile.
Qui portait le numéro 8 du Portugal?
Carvalho. Moutinho.
Juan Mario.
Moutinho.
Oh, putain.
Pierre, bien joué. 3-2. Ah oui.
Qu'est-ce qu'il fout, Mutin, à jouer là, dans ce match?
Eh, il était là. La France qui gagne face à l'Italie 3, bien sûr, vous savez absolument tout de ce match. Qui était le gardien de but italien?
Cyril.
Yanis a été le plus rapide.
Il est avec nous, Yanis.
Bien joué.
Non, il est avec nous. Il l'avait dit avant moi.
Ça fait... Alors, n'est pas de regret parce que Jérôme l'avait
ça
dit avant.
Ça fait 4-2.
Aussi. Ouais, donc, ouais, je pense que c'était le troisième.
Attention.
Pas encore revenir.
Attention, lors du match Brésil-Croatie de cet après-midi, dans l'équipe croate, un joueur qui joue en Ligue 1 était titulaire. Qui est-ce?
Subasic.
Subasic, oh, Daniel, bien joué. 4-3.
Il est fort.
Ah non, il est là.
Ah, c'est la rapidité. Hein, c'est...
Il est là.
Vas-y.
Dans ce même match, un autre joueur de Ligue 1 était titulaire. Marquinhos. Titulaire dans l'équipe du Brésil.
Thiago Silva. Yanis.
Bravo.
Je suis pas sûr que ce soit Yanis.
Non, j'ai dit Thiago Silva.
Oui, il y a une je n'accorde pas ce point.
L'arbitrage vidéo.
Ouais. L'arbitrage vidéo n'existe pas dans l'affaire. C'est l'arbitrage humain, monsieur Lama, vous le savez. On en reste donc à 4-3 pour l'équipe du coup.
Merde, vite alors.
Attention, je reviens maintenant au match Angleterre-Nigeria. Rappelez-moi rapidement qui est le sélectionneur du Nigeria. Gernot Rohr, Daniel, bien joué, 4-4. Attention, point décisif.
Je l'avais pas.
Bah vite alors.
Moi, je l'avais pas.
Point décisif, messieurs. Attention, je choisis mon match, parce qu'il faut quand même que ce soit un truc un peu dur, hein, sinon c'est pas drôle. Point décisif tout de suite.
Prends le suspense.
Le suspense, c'est vraiment, parce qu'il faut, faut surtout que je trouve la bonne question. Lors du match Brésil-Croatie, un ancien joueur de l'Olympique lyonnais était titulaire. Lovren.
Mehdi.
Mehdi, on l'a pas entendu, on l'entend sur la balle de match.
Lovren.
Il est magique, Mehdi.
Bien joué, Mehdi, c'est Lovren, effectivement.
Qui est
l'ancien joueur
merci,
de l'OL.
Bravo
Mehdi, tu gagnes la BD. Merci.
Je sens que Mehdi, il avait toutes les compos de tous les matchs amicaux du week-end.
Jérôme, d'être venu. Donc, merci. Les cahiers du foot, donc dans toutes les librairies. Hein,
librairies,
et
ouais.
Et non pas dans chez les marchands de journaux. Contrairement à avant. Ouais. Sacha, à bientôt pour parler de la Belgique.
À
et
bientôt.
L'after revient demain à 22h, comme tous les lundis, évidemment, avec l'équipe du lundi, composée du fantastique Jean-Louis Tour, réincarnation de Rossé Lucie Laverte, Daniel Riolo et Pierre.
Ah non, je suis pas là demain.
Ah, t'es pas là
break,
demain, toi.
Petit break, je reviens mercredi. Un petit break,
comme
la Coupe du Monde.
Comment on sort un petit break, attends.
Laisse tomber, c'est Roland Garros.
Il faut souffler.
Oui, voilà, c'est
ton
avis.
Ouais.
Le petit break, il fait Roland Garros.
Allez, ciao.
Allez, bonne nuit à tous.
Allez, minuit, une heure. RMC Poker Show.